que je remercie, qui concerne la nécessité de concilier le droit à la vie privée et le droit à la liberté, le conflit éventuel entre ces deux droits et bien entendu d'autres droits qui sont liés, tels que le droit à l'information. Et je voulais juste indiquer qu'au-delà de ce que l'on a dit sur ce point, le régime de protection des données personnelles existe, et dans ce domaine, comme tous les États de l'Union européenne, nous sommes liés par le règlement général de protection des données qui est entré en vigueur en mai dernier, ainsi que par la directive de l'UE sur la protection des données personnelles dans le domaine de l'action de la police en matière d'enquête pénale, de procédure pénale et de coopération judiciaire internationale, qui met en place un régime visant d'un côté à faciliter l'information, etc., mais d'un autre côté fixe des règles très strictes et très claires concernant la préservation de la vie privée. Lorsque l'on parle de vie privée, l'on englobe les différents domaines de la vie privée, mais il y a ce noyau fondamental, inviolable, qui est lié aux données que l'on appelle données sensibles, qui sont appelées autrement aujourd'hui, mais bon, c'est un élément important à prendre en considération dans cet équilibre qu'il faut préserver. Quant au non-refoulement, que Ricardo a déjà évoqué et qui est lié à l'expulsion, je voulais également ajouter une petite remarque concernant l'extradition, car au-delà des motifs prévus dans la loi 144-99, nous avons aussi la Convention sur le statut des réfugiés de 1951 et l'article 33, si je ne me trompe pas, qui impose cette obligation de non-refoulement. Je dois dire que nous avons eu affaire récemment à une affaire intéressante au tribunal, et ça sera ma dernière remarque. Ce ne sont pas des affaires fréquentes, je n'ai pas souvenir d'autres affaires de ce type, mais par hasard, j'en ai été saisie, et cela concernait justement une demande d'extradition de la part d'un État où le citoyen en question a été l'objet de persécution dû à des activités terroristes. Nous savons que cette notion de terrorisme a ses nuances, et pour établir les pouvoirs absolus, toute activité critique ou d'opposition peut être caractérisée comme terrorisme, bien qu'elle ne soit pas nécessairement liée au concept pénal de terrorisme, notion qui ne fait pas l'objet de consensus, mais qui est caractérisée aujourd'hui par la définition d'un ensemble d'activités typiques. Dans l'affaire en question, c'était une activité présumée terroriste. C'était le cas d'une personne qui appartenait à un groupe d'opposition au pouvoir en place dans le pays et qui ne remplissait pas les conditions fondamentales que nous considérons comme ceux d'une société démocratique et ouverte. Et cette personne avait un statut de réfugié octroyé par un autre pays que le Portugal, un autre pays membre de l'Union européenne, et il était venu à l'Algarve pour passer des vacances, puisqu'il y a là des plages magnifiques que je vous invite à visiter. Donc, cette personne passait tranquillement ses vacances avec sa famille dans l'Algarve, et il y avait une demande, non une demande d'extradition, mais un mandat international, un mandat d'arrêt international, en vue d'une extradition transmise par Interpol. La police portugaise en accord avec Interpol et la loi portugaise, a arrêté la personne à son passage à la frontière portugaise et a vu que la personne séjournait dans un hôtel de l'Algarve où elle était venue en vacances et a fait donc ce qu'il fallait faire, conformément à l'alerte rouge d'Interpol, est allé inviter cette personne à accompagner la police au commissariat. Cette personne a été donc placée en détention, présentée au tribunal. La personne alléguait qu'elle avait un statut de réfugié, qu'elle disposait d'un document d'identification de transit annexé à la Convention des réfugiés de 51, mais qui avait été délivrée par un autre pays. Il y a eu donc une discussion juridique. En attendant la demande d'extradition, après l'avis d'arrestation a été reçu, cela a été analysé au ministère de la Justice et notre ministre de la Justice, à juste titre, a refusé la demande d'extradition, disant qu'elle était irrecevable parce que la personne était titulaire d'un statut de réfugié et que les faits étaient liés aux faits ayant donné lieu à l'octroi du statut de réfugié. Même si le statut de réfugié avait été octroyé par un autre pays, le Portugal étant partie à la Convention des réfugiés, la personne était bénéficiaire d'une protection dans l'État. Donc c'était une affaire intéressante parce que c'était peut-être un des rares cas, je crois, cette dernière décennie. Et cela a été médiatisé à la télévision portugaise et dans la télévision, à la télévision étrangère. Cela a été un bon exemple de l'application de cet instrument. Et je voulais donc faire cette remarque complémentaire pour compléter les propos de mes collègues. Donc nous n'avons rien d'autre à ajouter, mais nous sommes bien entendu à votre disposition avec plaisir.
Thank you, Your Excellency. In fact, we have already concluded with.
Je remercie. Nous avons conclu en fait la plus importante partie de cet échange entre les membres du comité et votre délégation. Nous touchons à la dernière étape du.